chers amis de Radio Courtoisie, bon après-midi. Nous sommes ce 18 juin 2026. J'ai la joie de recevoir dans ce libre journal des traditions où je suis merveilleusement et techniquement assisté par Benoît, que je remercie. J'ai la joie de recevoir donc le père Hugues Brémond, qui nous a fait l'honneur de venir de sa douceur angine, on peut le dire. Mais il ne sait pas tout à fait la douceur aujourd'hui. Est-ce qu'il fait aussi chaud à Angers qu'à Paris? Oui. C'est bien ça, oui. Alors, nous sommes à égalité. Il n'y a pas... Vous allez nous parler de cette suite d'études que vous faites paraître. Trois prêtres noyés à Nantes le 9 décembre 1793. Vous nous en direz un petit peu plus dans quelques secondes. Puis je recevrai le général Christian Thiebaud, qui est le président du mouvement catholique des familles, qui lui nous parlera du 25e anniversaire du MCF, donc ce mouvement catholique des familles, et du congrès qui aura lieu début juillet, comme chaque année, à la Martinerie, près de Châteauroux. Et puis je recevrai vers 15h ce l'abbé Bertrand Labouche, qui lui nous parlera d'un ouvrage qu'il a fait paraître aux éditions de Chiré, l'Évangile de Notre-Dame. Mon père,
bonjour.
Donc vous poursuivez cette recherche que vous avez entreprise il y a combien de temps? Vous essayez de, au fond, rendre un petit peu public tous ces martyrs, parce qu'on les a un peu oubliés, il faut avouer.
Oui, alors j'avais commencé avec le bienheureux Noël Pinault.
Oui.
En 2020. Et puis ensuite, j'ai poursuivi avec, pour les... Alors, j'ai parlé aussi d'un ami du bienheureux, de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est enterré à ses pieds, et Racapé, chevalier de Mayanne. Et puis ensuite, j'ai consacré mes articles à la guerre de Vendée en Anjou.
Oui.
La dernière fois, j'avais parlé donc des... confesseur de la foi, et cette fois-ci je me suis intéressé à trois prêtres qui ont été victimes des noyades de Carrier à Nantes. Alors, il y a eu 13 noyades,
oui.
Qui sont décrites dans le livre sur les noyades de Nantes, et puis par Georges Lenôtre, et puis ensuite il y a eu une série de noyades individuelles, c'est à l'époque des colonnes infernales. Mais les noyades de Nantes commencent avec les noyades, deux séries de noyades de prêtres. Les prêtres de la Loire inférieure, tout d'abord, le 16 novembre, on noie 90 prêtres du clergé de la Loire-Atlantique aujourd'hui.
Oui.
Et on noie le 16 novembre, c'est la deuxième grande noyade, 57 prêtres angevins, le 9 décembre. Et c'est à trois de ces prêtres noyés à Nantes, le 9 décembre 1793, que je me suis intéressé.
Ah, il faut dire donc que ces études très intéressantes, solidement documenté, parce que vous êtes un vrai disciple du professeur de Vigry qui fut votre maître,
ouais.
Paraissent dans le bulletin du prieuré de Gâtine, qui a un très joli titre d'ailleurs, Le Parvis. C'est une série comme cela, c'est la petite chronique historique de l'Anjou chrétien. Et si on veut d'ailleurs, il suffit je pense d'écrire, il y a une adresse électronique, on écrit tout simplement, tout attaché, prieuré de Gâtines, alors ça s'écrit Gastines, @orange.fr, et on peut recevoir un exemplaire sans problème, c'est ça. Mais avant que les auditeurs de Radio de Courtoisie ne fassent cette demande, il faut que nous disions un petit peu ce que vous avez publié à propos de ces trois prêtres noyés. Quelque chose qui m'a frappé, les grandes noyades, dites-vous, se font de nuit.
Oui.
Et les autres de jour, les petites
noyades.
Parce qu'on craignait quand même...
À Nantes, l'opposition à Carrier montait de plus en plus. Plus on en apprend sur Carrier, sur ce qui se passe dans, oui, la Loire la nuit, plus l'opposition monte. Et à dans l'année suivante, en 1794, il sera destitué et condamné et guillotiné. C'est le seul qui a, enfin avec deux autres, qui ont payé pour ces noyades, alors que une quinzaine de personnes au moins auraient dû être payées pour ces noyades qu'ils ont provoquées. Enfin, qui...
Oui. Et vous dites, vous décrivez bien comment ça se passe. J'allais dire techniquement, on a fait des trous, des soupapes, dites-vous, et puis on, à un moment, on
oui,
enlève.
Oui, dans des gabarres, des bateaux plats de la Loire.
Oui.
Alors la première noyade de prêtres, c'était mal passé, parce qu'il y avait des prêtres qui en étaient échappés, qui essayaient de se sauver. Il avait fallu assommer pour eux, ils avaient dû assommer à coups de
rame.
De rame. Et pour la deuxième, ils sont mieux préparés, donc ils ferment bien, et le bateau s'enfonce, et ils sautent sur des barques qui sont avoisinantes, pour ceux qui sont coupables de ces noyades. Et donc, eux en réchappent, tandis que le bateau s'enfonce.
Ça, eux, ils s'évadent. Mais les condamnés à mort, les victimes, et on peut dire les martyrs, parce qu'ils meurent en haine de la foi catholique, eux sont attachés, ils ne peuvent pas se
Oui,
libérer.
Alors on allait jusqu'à, ce qui est criminel, on allait jusqu'à attacher deux prêtres, ou un prêtre et une femme, ensemble. C'était les fameux, ce qu'ils appelaient les mariages républicains. Ou deux laïcs ensemble qui n'étaient pas nécessairement des époux.
Oui.
C'est assez terrible ce qui se passe dans ces noyades. Sur le nombre des noyades, on a beaucoup. On a eu beaucoup. Certains parlent de 4000. On est monté jusqu'à 9000. D'autres descendaient jusqu'à 2000 du côté des historiens plus républicains. On pense que 4000, c'est. La conclusion de l'Allier, un historien de Nantes, qui a fait le vrai travail que le nôtre a exploité ensuite dans l'entre-deux-guerres, notamment dans un livre sur les noyades de Nantes, qui a connu plusieurs dizaines d'éditions. Ce chercheur de cet historien de Loire-Atlantique, l'Allier, s'arrête à 4000 victimes, un peu plus de 4000 victimes.
Et là, vous consacrez cet article à trois prêtres. Et ce qui frappe, ils sont morts martyrs, il n'y a aucun doute, mais ce ne sont pas nécessairement des prêtres des saints de vitraux, on ne peut pas dire. Il y en a même qui sont terriblement séduits par la Révolution. Au départ, lumières, ça ne leur fait pas peur.
Oui, mais la plupart des... Quand on regarde les cahiers de remontrance jusqu'à la Révolution, jusqu'au début de la Révolution, tout le monde est pour un changement. Mais certains attendaient un petit changement et d'autres un grand changement.
Oui.
La Vendée, les Mauges surtout pour la partie angevine, attendaient des changements d'ordre économique, mais pas de gros changements des institutions, et surtout il ne fallait pas toucher à l'Église. C'était lié à la foi, et donc on ne pouvait pas toucher à l'Église, dans cette région qui n'a pas de, je le rappelle encore, comme j'avais dit la dernière fois, qui n'a pas de loge monastique. Les Mauges n'ont pas de loge monastique, à la différence du Saumurois, de la vallée de la Loire ou du Baugeois.
Ce qui est amusant, c'est que ces prêtres, bien sûr qu'ils sont des hommes de Dieu, des hommes d'Église, sont quand même un tout petit peu près de leur bien matériel. Et alors, ils défendent bec et ongles un bénéfice. Ils se battent contre le chapitre qu'ils trouvent trop développé. Ce sont les petites misères, si j'ose dire, de l'Église. C'est ça qui les préoccupe, beaucoup.
Alors, il faut un peu peut-être souligner la différence pour les prêtres de l'époque. Les candidats à l'état ecclésiastique devaient être tonsurés. On pouvait l'être à partir de 14 ans. Ensuite, ils devaient posséder un titre ecclésiastique. On n'ordonnait pas quelqu'un qui n'avait pas de revenus. Alors, il fallait que la famille achète des terres, une rente, pour constituer un titre ecclésiastique et donc un revenu à celui qui se préparait à recevoir les saints ordres.
Ça veut dire en clair que le diocèse ne subvenait pas aux besoins aujourd'hui.
Pas avant la Révolution.
D'accord.
Ensuite, il fallait qu'ils fassent leurs études. Alors, il y avait plusieurs moyens de devenir prêtre. Il y avait ceux qui restaient dans leur village et qui se mettaient à l'école du curé, qui leur apprenait un peu de théologie, bien le catéchisme. Il fallait connaître, enfin, le Concile de Trente précise ce qu'il faut pour être d'abord un bon chrétien et a fortiori pour être un bon prêtre, toutes les prières nécessaires. Et puis, il y avait un autre moyen, c'était de passer par des collèges, notamment le Collège des Oratoriens, qui est le grand collège à Angers, et ensuite d'entrer au petit séminaire, qui a été fondé au XVIIe, et au grand séminaire. Ça, c'était la voie royale, oui, qui formait le mieux les prêtres. Et il y avait un troisième moyen, ceux qui avaient suffisamment de revenus, qui faisaient des études à l'université, qui acquéraient un titre en théologie, licence ou doctorat, et qui, fort de leur doctorat, pouvaient, avec un titre clérical, pouvaient prétendre à certaines cures, à des cures même de petites villes, une trentaine en Maine-et-Loire, en Anjou, enfin Maine-et-Loire à partir de 91, trentaine qui nécessitait d'être docteur en théologie.
Alors, si vous voulez, on va peut-être présenter aux auditeurs de Radio Courtoisie l'un d'entre eux déjà qui vous le montrez, parce que je le disais, c'est très bien documenté, vous avez fouillé dans toutes les archives. En 1774, c'est l'abbé Claude Robin,
ah oui,
il est curé de Saint-Pierre à Angers, et il... Il me fait un autoportrait, on est rassuré, au moins il ne souffre d'aucun complexe d'infériorité.
Ah non.
Je le lis, et puis vous allez nous présenter un petit peu le personnage. Il est mort martyr, c'est donc admirable, mais il faut avouer qu'il avait une personnalité un petit peu originale.
Oui.
Alors voici comment il se dépeint. Prompt, vif, impatient, délicat, sensible. Il parle de lui, évidemment, à la troisième personne, comme César. Il est le vice et les vicieux. Comme il est la maladresse et les maladroits, sans mélancolie, sans ennui, sans chagrin, né avec une gaieté légère, badine et ouverte, quoique rêveuse parfois, peu sérieuse, peu grave, peu mystérieuse, qu'on aime d'abord, qu'on ne craint pas assez, qu'on méprise ensuite, et qu'on hait enfin quand on est fripon. Quoique très sociable, il se voit sans peine séparé de quelques sociétés où il devrait naturellement avoir sa place. Alors, qui est ce personnage qui parle de lui ainsi?
Alors, c'est un enfant de Saint-Florent-le-Vieil,
oui,
la ville qu'ont atteinte les Vendéens après la défaite de Cholet, et qu'ils ont, en octobre 1793, c'est de là qu'ils ont traversé la Loire et commencé la virée de Galerne. L'abbé Claude Robin, son père avait décidé qu'il serait prêtre. Et puis son père avait pensé ensuite, l'évolution, les idées, qu'il pourrait peut-être gagner plus d'argent d'une autre manière. Et donc il voulait lui faire renoncer. Parce que lui avait, c'était au début peu enclin à devenir prêtre, il avait fini par prendre à cœur cette vocation. Il suit ses études. Alors, on ne sait pas très très bien s'il est passé par le collège, le fameux collège de Beaupreau. Mais en tout cas, il arrive à l'université d'Angers et il obtient le doctorat en théologie en 1731. Il devient vicaire à Saint-Florent. Il retourne dans la ville de sa naissance. Il fallait être 5 ans vicaire pour obtenir le titre de curé. Donc il est à Saint-Florent pendant 2 ans, ensuite à Saint-Pierre de Saumur et à Rochefort-sur-Loire. Puis il va être nommé curé alors à Chêne-Hutte-les-Tuffaut pendant 5 ans. Chêne-Hutte-les-Tuffaut, c'est une petite cure, c'est tout, c'est pas une plus prestigieuse. Et de juin à septembre, tout en étant curé de Chêne-Hutte-les-Tuffaut, il va faire un voyage à Rome, dont il va nous laisser un récit. Il va en pèlerin, mais aussi en touriste. Il décrit ce qu'il peut admirer sur la route, et donc il en tire un journal. Il a un compagnon qui disparaît mystérieusement au retour de ce voyage. Et Il devient ensuite chanoine à Saint-Maurice en 1751 et curé à Saint-Pierre-d'Angers, il l'est de 1751 jusqu'à son emprisonnement, jusqu'à 1791. De son voyage de Rome, il va en tirer le titre de curé cardinal.
Oui.
Et j'ai pu le voir.
Oui,
c'est pas une invention
des
historiens, des biographes. Même dans les actes de baptême ou les actes de mariage, il signe Abbé Claude Robin, curé cardinal de l'église de Saint-Pierre d'Angers. En 1761, il est nommé recteur de l'université d'Angers pour 3 mois. La charge de rectorat pour la faculté de théologie était de 3 mois. Après, c'était la faculté des droits qui l'avait pendant 6 mois. La charge était tournante.
Oui.
Mais peu de temps après, il est relevé de sa charge à la suite d'une condamnation de la Sénéchaussée pour négligence dans la tenue des registres paroissiaux. Il fait appel au Parlement de Paris, ni plus ni moins, et il est rétabli dans sa charge. Il avait des titres cléricaux assez confortables, puisqu'il était un prieuré qui lui rapportait 500 livres à Châteauneuf, et il avait un Boitailly, plus les revenus comme curé de Saint-Pierre, à Angers. C'est la paroisse qui se trouvera sur l'actuelle place du Ralliement et qui sera aux places de la Guillotine. Et c'est la paroisse, on dit qu'à là où se trouvait le maître autel de cette paroisse était dressé l'échafaud, et c'est là où le bienheureux Noël Pinault a été guillotiné.
Il est vraiment mort à l'autel.
Voilà.
Le sacrifice de son maître divin et le sien associé au même lieu.
C'est ça. À l'endroit même où se trouvait l'hôtel.
Et c'est
devant l'actuel théâtre d'Angers, sur la place du Ralliement. Il y avait 2 autres églises qui sont démolies en 1790-91. Et l'abbé Claude Robin assistera à la démolition de son église.
Alors, c'est 3 prêtres. Je rappelle aux auditeurs que j'ai la joie de recevoir le père Hugues Brémond pour cette belle étude qu'il a fait paraître dans le bulletin du prieuré de Gâtine, qui s'intitule Le Parvis, et qu'on peut se procurer très facilement en écrivant à l'adresse électronique suivante, prieuré de Gâtine, tout attaché, gastines@orange.fr. Mon père, ces 3 sont sacrifiés, on peut lire ensemble, mais avant, il y a un procès, avant il y a une incarcération, où est-ce qu'ils se retrouvent avant d'aller au supplice?
Alors, en 1791, il y a la constitution civile du clergé, on exige des prêtres qu'ils prêtent serment dans le mois qui suit, et à partir du mois de avril-mai, ils sont considérés comme réfractaires. Le bienheureux Noël Pinault va connaître toutes ses aventures, être emprisonné, il va être élargi et ensuite réemprisonné. Pour ces 3 prêtres, eux, ils ont plus de 60 ans. Donc ils ne vont pas être victimes, si l'on peut dire, de l'exil en Espagne pour tous les prêtres de moins de 60 ans. Ils vont rester sur place et être emprisonnés.
Les prêtres, donc, étaient ceux de moins de 60 ans qui n'avaient pas prêté serment, oui. Étaient exilés
en Espagne. Oui.
Et n'importe où en Espagne, ou bien il y avait une...
Pour les prêtres en juin, surtout en Espagne et dans plusieurs diocèses.
Oui,
il y a eu un livre sur la vie des prêtres réfractaires en Espagne.
D'accord.
Espagnol, historien. Donc, ces prêtres sont emprisonnés en 92. Ils sont libérés à l'arrivée des Vendéens, quand les Vendéens s'emparent d'Angers, en juin 93. La révolte vendéenne commence en mars 93. Et le 13 mars 94, pendant le carême. Et puis, donc, il y a toutes les villes qui sont emportées, Saint-Florent-le-Vieil, et d'autres villes, Saumur, etc. Donc eux, pendant, ils arrivent à Angers, les Vendéens, les troupes vendéennes, l'armée catholique et royale s'emparent d'Angers et libèrent tous ces prêtres qui ont plus de 60 ans. Ils vont bénéficier de 3 mois de liberté et retourner alors quand ils le peuvent dans leur paroisse, d'autres rejoignent l'armée vendéenne, certains restent sur place au moment où les Vendéens se retirent d'Angers et ils sont réemprisonnés en septembre 93. Ils y restent à Angers en septembre et octobre, au moment où a lieu la fin de la Grande Guerre, enfin la première partie de la Grande Guerre de Vendée, avec la défaite de Vancholet et le passage de la Loire, le début de la virée de Galerne. Et en décembre, donc novembre-décembre, on décide de se débarrasser même de ces prêtres. Parce qu'on dit qu'ils peuvent retourner avec les Vendéens s'ils reconquièrent Angers. Et on décide donc de les noyer. Alors dans un premier temps, en Anjou, en Maine-et-Loire, on parle de Mont-de-Jean, avant Saint-Florent, Mont-de-Jean sur la Loire. Et puis aucun des... Le maire de Chalonne s'y refuse, le maire de... Le patron de la petite société de bateaux se refuse aussi de noyer les prêtres. Et donc on les emmène jusqu'à Nantes, où Carrier n'a pas peur avec ses CI de faire un tel travail, avec la compagnie Murat.
Et on sait à Angers où ils avaient été incarcérés. La prison existe encore ou pas?
C'est l'actuel lycée David d'Angers.
Ah, très bien.
C'était l'ancienne école des frères des écoles chrétiennes qui était au-delà des remparts et qui est devenue, donc, à la fin de la Révolution, au moment du consulat de l'Empire, le lycée David d'Angers, ce qu'il est toujours.
Alors, vous-même, vous avez beaucoup de difficultés à retrouver des traces écrites, parce qu'on voit que vous êtes allé chercher sur les registres paroissiaux, puisque vous avez repéré la signature du vicaire cardinal. C'est accessible, on a perdu beaucoup de documents, ou non,
si
tout est resté intact?
Pardon, si j'ai étudié ces 3 prêtres, c'est ceux sur lesquels on a le plus de documents, mais il y a beaucoup de prêtres, c'est les 3 où il y a le plus de documents. Il y a beaucoup de prêtres, malheureusement, on n'a pas beaucoup de documents. C'est sa date de naissance, parfois sa date d'ordination, ses charges, mais rien de plus. On n'a pas le cursus que l'on peut, qu'on peut avoir sur que ce soit l'abbé Robin, l'abbé Boumard ou l'abbé Poineau.
Alors justement, ce dernier abbé, là, Jacques Poineau, vous en parlez, lui, il avait carrément prêté serment.
Oui.
Et puis il s'est ravisé.
Oui.
Et évidemment, il a été exécuté, noyé. On parlera, je crois, quand même du travail de la grâce, parce que, encore une fois, vous n'avez pas pris des petits saints, ce sont vraiment des prêtres avec leur misère. Et puis, ils sont quand même héroïques quand il s'agit de témoigner, de donner sa vie pour le Christ.
On n'a pas de plainte, ces prêtres vont, dans ce que raconte le nôtre, l'allié, puis ensuite le nôtre, ces prêtres ne se plaignent pas. Ils essayent de prier. Ils croient qu'on va les exiler en Espagne au début. Et... Parce que tout leur était caché. Hein.
Ouais. Il y a quelque chose de touchant dans ce que vous dites. En quelques pages, vous dites beaucoup de choses, énormément de faits. Vous dites qu'on les a dépouillés de tous leurs biens.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas de petit profit, les révolutionnaires leur retirent leur portefeuille, leur argent, leur montre, tout
oui.
Et il y en a un qui arrive à empêcher qu'on lui prenne tout ça, il donne ça à la femme du geôlier pour qu'on dise des messes.
Oui.
Et puis elle prend peur, elle donne tout aux révolutionnaires.
Elle préfère donner aux révolutionnaires, oui.
Mais il avait pensé au salut des âmes de ses confrères,
c'est ça. Oui. Je crois qu'ils sont morts, effectivement, comme vous dites, comme des saints.
C'est ça. Et alors, justement, dites un petit peu comment c'est compliqué cette période, puisque ce Jean-Jacques Poineau, lui, au début, il croit d'ailleurs même bien faire. Il pense qu'il a fait quelque chose. Il pense être toujours fidèle au roi en prêtant serment à la constitution civile du clergé.
Oui, on voit cela dans ces 3 ou 4 lettres de l'été 93. L'abbé Poineau, c'est un homme qui est revenu dans dans sa famille, enfin une paroisse voisine de celle où il était né, pour y vivre tranquillement et y mourir. Il avait plus de 70 ans. Et puis la Révolution arrive, son curé, l'abbé Dumoulin, choisit, moins de 60 ans, donc il l'envoie en Espagne, et il refuse de prêter le serment. Lui est attentiste. Il croit que l'on peut prêter serment sans manquer à sa foi catholique. Et donc il prête serment. À ce moment-là, on est au début de l'année 91, il fait office de... Il remplace le curé Dumoulin en attendant que soit nommé, comme le voulait la Constitution civile du clergé, un curé conventionnel qui avait prêté le serment. L'abbé Poineau n'est pas pressenti pour être le curé, mais il fait office de curé. Arrive le curé qui a prêté le serment à la Constitution civile.
Le jureur.
Jureur. Et l'abbé Poineau donc, devient son vicaire. Il a prêté serment.
Donc ils cohabitent.
Dans le même temps, il y a l'ancien vicaire réfractaire du même village et un prêtre dont on a parlé la dernière fois, dans les curés confesseurs de la foi qui avait habité Denay, lui reproche son attitude.
Oui.
Et l'abbé Poineau essaye de se défendre, dit qu'on peut prêter un serment, vu la valeur du serment, d'obéissance aux autorités constituées, et tout en respectant sa foi ses serments, son engagement vis-à-vis de l'Église. Et il essaye de vivre ainsi, je pense qu'en... Au moment où arrivent les Vendéens, il passe à Angers. Et à Angers, il va être en contact avec les Vendéens. Alors ça, c'est... Mmh. Et qu'avec au contact des Vendéens, il va prendre conscience de son erreur. Et il va revenir sur son serment. Il va tenter de revenir sur son serment, tout en se justifiant.
Ouais.
C'est qu'il avait prêté. Hein. Mais les textes qu'on a, le document manuscrit, montre bien que ce qui compte pour lui, c'est la foi catholique.
Oui.
Parce qu'il y a les 4/5, ou même pas les 9/10, sont consacrés à défendre sa foi, le Concile de Trente, enfin tout ce qu'il a reçu, parler de notre Seigneur Jésus-Christ, du pape, et à la fin, il prête serment au roi, etc., à la nation. Et à la loi, comme on dit.
Et on voit dans une petite poésie, celui dont nous parlions avant, l'abbé Robin, lui, parle à la fois de Minerve et de Thomas. Enfin,
c'est un lettré.
C'est ça, voilà. Robin. Et alors, il revendique sa culture littéraire.
Il en est très fier.
Et en même temps, il y a quand même saint Thomas. Enfin,
oui, il dit à un moment, j'ai dans l'Antiquité porté quelques lumières, j'ai lu nos écrivains, j'ai réfuté Voltaire, ouais. J'ai dit un mot d'Émile, ennemi du vieux temps, le sublime Thomas m'a donné son encens.
Voilà, c'est extraordinaire. Alors, on se dit pour offrir leur vie comme ils l'ont fait, bien sûr, ils n'ont pas la hauteur d'un Noël Pinault, mais ils devaient avoir une vie intérieure, parce qu'au moment du sacrifice suprême, ils donnent ce témoignage. S'ils avaient été, j'allais dire l'abbé Grégoire ou Talleyrand Périgord, vous voyez ce que je veux dire, ils auraient tout laissé tomber.
Alors j'ai eu la chance, j'en ai pas parlé, mais j'ai eu la chance de lire les sermons de l'abbé Boumard, donc à Angers, le premier.
Oui.
Et qui sont d'une haute tenue théologique. On voit qu'ils avaient une formation, les conférences ecclésiastiques. Connaissance du Concile, de la Sainte Écriture, de la théologie, de la grande théologie de l'Église.
Ils étaient formés et ils vivaient spirituellement, je pense. Alors, mon père, malheureusement, nous allons nous séparer parce que le temps est venu, mais vous savez ce que je vais vous demander. C'est ce que je vous demande à chaque fois que nous nous voyons. À quand un livre? Parce que là, nous avons, de façon éparse, et on aimerait bien avoir tous ces articles dans un seul volume.
Oui.
Le martyrologe d'Angers.
Il y en a eu beaucoup d'écrits déjà.
Oui, non, mais on attend. Il faut dire aussi que vous avez Toujours fidèle à votre maître, monsieur de Vigry,
oui.
Vous avez travaillé en bon historien, et là, je pense qu'il y a une valeur ajoutée.
Mais il y a beaucoup de sujets. J'aimerais parler aussi du clergé Poncé à Rochefort.
Et bien ça sera le deuxième tome, mais il faut préparer le
premier. Il y a aussi de saints évêques. Je pense à un évêque à la fin du Moyen-Âge, Angers, l'évêque Monseigneur Michel, qui était un grand évêque. À qui on a attribué beaucoup de miracles, qui n'a jamais été béatifié.
Ah, ben alors, donc, mon père, on vous souhaite des vacances studieuses.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
Merci, monsieur l'abbé. Merci.
Nous allons entendre un message de la radio.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Chers amis, donc vous venez d'entendre ce message, combien nous avons besoin de vous, combien nous comptons sur vous, parce que nous savons que nous pouvons compter sur vous. Donc, surtout n'oubliez pas la radio pendant l'été, ne vous dites pas que nous sommes en vacances. Au contraire, nous poursuivons nos émissions et nous avons besoin de votre générosité estivale. Juste deux petites annonces, vous trouverez dans toutes les bonnes tables de presse, et en particulier au comptoir des monastères 33 rue Galande, dans le 5e arrondissement, le dernier numéro de Nouvelles de chrétienté qui porte sur les quatre futurs évêques, qui va être consacré le 1er juillet. Vous verrez aussi un article qui permet de comprendre comment les sacres de 2026 sont tout à fait dans la ligne de ceux de 1988. Vous aurez aussi une très belle déclaration de Monseigneur Schneider en faveur de la fraternité Saint-Pie-X. Vous aurez également, alors dans un domaine toujours religieux mais artistique, un bel article sur les splendeurs du baroque hispanique. On peut trouver donc tout cela au comptoir du monastère, ou à la table de presse de Saint-Nicolas, ou dans tous les prieurés, pour 4 euros seulement. C'est le numéro 219 de mai-juin 2026. Si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner. Pour 20 euros, vous avez 6 numéros dans l'année. Il suffit d'écrire au 33 rue Galande et on fait un chèque au nom de Civi Roma. Et enfin, vous avez le numéro de d'ici, alors qui lui paraît aujourd'hui, mais il sort vraiment de l'imprimerie aujourd'hui. C'est le numéro 469 qui lui, alors, donne plusieurs informations, toujours sur la situation de l'Église, la dernière encyclique du pape, en l'occurrence sa première encyclique pour Léon XIV sur l'intelligence artificielle. Vous avez aussi quelque chose sur le synode que vous trouverez dans ce numéro-là. Donc, et là, c'est 40 euros pour 12 numéros par an, toujours 33 rue Galande, Paris 5e, à l'ordre de Civi Roma, C-I-V-I-R-O-M-A. Et j'ai la joie de recevoir, comme je vous le disais, chers amis de Radio Courtoisie, le général Christian Thiébaut, qui préside aux destinées du mouvement catholique des familles. Mon général, bonjour.
Bonjour, monsieur l'abbé.
Alors, depuis combien de temps êtes-vous à la tête de ce régiment un petit peu particulier, il faut reconnaître?
Oui, c'est un régiment un peu particulier, c'est même plus qu'un régiment. C'est presque un corps d'armée maintenant, ça grossit doucement. Et en tout cas, ça fait 6 ans que je sers au sein du MCF, dans les fonctions de président.
Très bien. Et alors, il se trouve que vous avez 25 ans. Non pas vous, parce que, ou alors vous ne les faites pas. Il se trouve que le mouvement que vous dirigez depuis 6 ans fête cette année ses 25 ans. Donc c'est un bel anniversaire, ce sont des noces d'argent.
Oui, des noces d'argent, effectivement, bel anniversaire. 25 ans, c'est un peu l'âge de la maturité, de la pleine maturité, je dirais, où à la fois on assume tout ce qu'on a reçu et on part dans l'avenir. Et j'espère que pour le mouvement catholique des familles, ça sera aussi un point de départ pour l'avenir, pour aller encore plus loin.
Alors, comment est-ce que vous allez fêter concrètement ce jubilé d'argent? Ça se passera où, quand et comment?
Alors, nous avons chaque année un congrès des familles qui réunit de nombreuses familles. Et cette année, nous devrions être à peu près 800 à la Martinerie, hein, le 3, 4, 5 juillet 2026. Hein. Je souligne le chiffre de 800 parce que c'est assez remarquable. La concurrence a été rude cette année avec les sacres à Écône, avec des prises d'habits à Fangeau. Et néanmoins, les familles sont en rendez-vous. Il reste encore quelques places. Et nous avons un beau panel de conférenciers pour ces 25 ans et un certain nombre de festivités. Hein. Je peux citer Monsieur Volzengel, juriste à l'ECLJ pour la défense de la famille, un enjeu civilisationnel. L'abbé Baudouin de Lassus, qui est directeur d'école au Gabon, pour transmettre l'esprit missionnaire. La grande aventure des missionnaires au UNAM par Françoise Siret, conférencière. Rayonner localement en famille par Louis et Blandine Charbrier, hein, parents de familles nombreuses et investis localement. Et puis une autre conférence sur l'action catholique, un modèle d'implication laïque dans la cité au 20e siècle, et je dirais même au 21e siècle, par Jean Dupelem, agrégé d'histoire et professeur en lycée. Voilà, avec cette année, exceptionnellement, une conférence de clôture qui sera prononcée par un des évêques nouvellement sacrés, Monseigneur Anapier, et qui nous fera l'honneur d'une première messe pontificale.
Alors ça aura lieu à la fin du congrès, c'est le dimanche.
Ça aura lieu le dimanche à la Martinerie, donc à la fin du congrès, d'un congrès qui a pour but de réunir les familles hein, sur un plan de l'amitié hein, et sur un plan de la formation aussi, avec ses conférences et puis avec un certain nombre d'ateliers. Sachant qu'on a simultanément une grosse garderie, hein, plus de 300 enfants seront encadrés par une garderie, ce qui permet de libérer les parents, ce qui est quand même un peu exceptionnel, hein, et ce qui permet des temps forts de formation, justement.
Alors là, vous dites un congrès qui réunit 800 membres, 800 participants, c'est donc le chiffre de l'année dernière, même un petit peu augmenté. Enfin,
un peu plus que l'année dernière.
Plus que l'année dernière.
De la concurrence, on est a priori assez content. Il reste encore quelques places, mais on va clôturer les inscriptions dans les jours qui viennent. Il reste quelques places en particulier pour les congressistes, hein, les adultes, puisque pour la partie enfant, on est quand même déjà bien rempli. Hein.
Et là, il faut donc dire que si on veut profiter de ces quelques dernières places, il faut très très vite aller sur le site du Mouvement catholique des familles. Et là, c'est très simple, on tape sur un moteur de recherche, Mouvement catholique des familles, on est renvoyé sur le site et il y a une inscription en ligne qui peut se faire instantanément, donc c'est très simple. Mais alors, ce que vous disiez, c'est un des rares congrès où on peut venir avec ses enfants et on vient en couple aussi, c'est ça qui est formidable.
Oui, absolument.
C'est les familles et vous n'êtes pas vraiment pour les familles monoparentales, vous pensez qu'on est quand même un homme, une femme.
Et exactement, on n'est pas pour les familles monoparentales, on pense à l'ensemble de la famille, donc le couple et un homme, une femme et les enfants. Et tout le monde est pris en compte. Hein. Et au-delà de ça, ça a vraiment pour objectif, conformément à notre devise, unir les familles en un front solide, en fait. Que les familles, dans la situation actuelle, ne soient pas isolées.
Ouais. Et ça, c'est vrai que quand on défend la morale catholique, on peut se sentir un petit peu isolé, parfois même dans sa propre famille.
Oui, c'est difficile et on a au-delà du congrès hein, et là aussi on en est très fiers parce que pour les 25 ans on va atteindre cet été pour la première fois une centaine de cercles de famille. Donc on a localement hein, des cercles de famille qui se réunissent tous les mois hein, pour se former entre elles sur le sujet d'éducation, de société, de civisme ou autre hein, et c'est un peu la continuation du congrès. D'ailleurs, le thème de l'année, hein, puisqu'on a une espèce de guide qui leur permet d'organiser leurs travaux hein, et de planifier leurs travaux pour les aider, hein, le thème de l'année sera sur le congrès les familles missionnaires.
Ça, c'est très important parce que, au fond, votre congrès n'est pas un feu de paille. On se réunit, on se tient chaud pendant 3 jours, et après, il ne se passe plus rien et on attend le prochain congrès. Non, il y a un suivi au cours de l'année, et localement.
Absolument, il y a un suivi au cours de l'année. Alors, on attend le prochain congrès quand même, parce que c'est un moment de convivialité assez fort. Hein, 800 personnes réunies qui partagent donc la même foi, la même soif d'apprendre, la même soif de construire une société chrétienne, de construire une famille chrétienne. C'est quand même un temps fort. Hein, mais ça se poursuit tout au long de l'année et ça se construit tout au long de l'année. Oui.
Et là, par exemple, quelqu'un qui se retrouverait, je ne sais pas, dans la région PACA, il y a, sur Marseille, il y a peut-être un cercle, il y a quelque chose où on peut se retrouver. C'est, en moyenne, c'est tous les combien, ces réunions?
Alors, c'est très variable. Chaque cercle a un peu sa caractéristique. Hein. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Hein. C'est 5, 6, 7, 8 familles qui se réunissent, hein, et qui se répartissent des thèmes, hein, et c'est les laïcs, les familles qui en couple traitent du thème, hein. Alors éventuellement on a la présence d'un prêtre, hein, quand on peut c'est mieux, hein, mais c'est, on tient à cette formation des familles par les familles sur leur sujet, et en général c'est une dizaine de fois dans l'année, c'est-à-dire une fois par mois, un soir, avec un temps de prière, avec un temps d'enseignement, hein, un temps de réflexion, d'échange, et puis un temps de convivialité, bien sûr.
Là aussi, alors, c'est très pédagogique parce que non seulement votre congrès n'est pas un feu de paille, 3 jours intenses et puis il ne se passe plus rien, mais dans vos cercles aussi, il ne s'agit pas d'être passif. On écoute pieusement un topo par une oreille, ça ressort par l'autre et il ne reste plus rien. Non, vous pensez qu'on ne retient que ce qu'on a travaillé personnellement, il faut s'approprier, il faut assimiler personnellement ces lectures.
Je crois que c'est la base de toute pédagogie. Hein. On ne sait bien que ce que l'on fait, hein, et c'est la base de la pédagogie pour nos enfants. Il faut leur faire confiance, il faut savoir leur déléguer, hein, qu'ils agissent par eux-mêmes. Et ben, c'est la même chose au niveau des familles. Hein. Et il faut que ce soit les familles qui prennent en main leur formation dans un premier temps, pour ensuite mieux s'engager dans la cité, bien sûr.
Ça sera un peu le sens de ce congrès, famille missionnaire, l'engagement, la dernière conférence donnée par Jean Dupelem, que je recevrai d'ailleurs dans 15 jours, c'est cela. Il s'agit de bien montrer qu'il y a, il y a eu des anciens, il faut suivre leurs traces et continuer pour bâtir la génération future.
Je crois que les temps sont difficiles quand même pour nos familles catholiques. Les temps sont difficiles, hein. La société est devenue hostile à la famille en général, hein, voire l'idéologie ambiante, hein, que ce soit celle du gender, du LGBT, de l'idéologie woke, est contraire au fondement même de la famille naturelle. Hein. Je ne parle même pas de famille chrétienne. Hein. Si se former et s'engager dans la cité était autrefois important, aujourd'hui c'est indispensable, c'est incontournable.
Là, on est presque dans une situation de vie ou de mort, parce que ou on se défend ou on laisse tout passer, quoi. C'est ça. Et effectivement, ce qu'il y a de beau quand on participe à ces congrès, c'est qu'on voit des familles généreuses, très enthousiastes, pas moroses, il faut reconnaître, c'est pas la génération dépressive, ce sont des gens qui y croient et qui en veulent, quoi. Et ça doit plutôt être consolant pour un président.
Oui.
Alors, vous disiez, il y a des difficultés. Vous savez, je ne sais pas, vous êtes père de famille nombreuse vous-même. Ce n'est pas à vous que j'expliquerai qu'il y a aussi des difficultés matérielles. Qu'est-ce que vous faites pour les familles qui sont nombreuses et qui ne peuvent pas toujours subvenir à tous les besoins? En particulier, je pense à l'éducation et les écoles.
Voilà. Le mouvement catholique des familles est un mouvement qui est résolument dans l'ordre politique et social, hein, donc dans le domaine temporel, sous la responsabilité des laïcs, hein, même s'ils se placent sous la responsabilité de la Fraternité Saint-Pédis dans le domaine propre à l'Église. Hein. Donc on prend nos responsabilités dans ce domaine-là, et la première des actions qu'on fait, hein, c'est d'aller aider les familles là où elles en ont besoin, là où elles nous le demandent. Et la première œuvre un peu qui a sur laquelle s'est construit le MCF, hein, outre ces congrès de formation, c'était l'aide aux familles pour pouvoir scolariser leurs enfants dans des écoles libres, catholiques, hors contrat donc. Hein. Et nous distribuons en fonction des ressources que nous avons, des dons qui nous sont envoyés, hein, et je me permets de faire un appel aux dons, hein, nous distribuons donc à 2500 familles, hein, quelle que soit leur conviction, hein, 2500 familles qui veulent élever leurs enfants dans des écoles catholiques hors contrat, nous distribuons des bourses qui leur permettent de payer une grande partie de leur scolarité. Ça, c'est le premier gros volet pour lequel le mouvement catholique des familles est connu. Et puis, alors ça existait un peu avant, l'entrée d'handicap, mais depuis disons 5-6 ans, on a vraiment développé cette partie entrée d'handicap. Et nous avions déjà le soutien à la Fondation Sainte-Jeanne de Valois, hein, puisque nous en sommes membres fondateurs. Nous avions déjà l'œuvre des Amis du Samedi qui entourent et qui prennent en charge les enfants handicapés. Et depuis quelques années, hein, et ça se développe assez rapidement, nous participons au financement d'aide aux enfants en situation de handicap dans les écoles. Donc nous finançons tout ou partie, hein, en fonction des capacités sociales de chacun, hein, et en fonction des dons qui nous sont parvenus des AESH dans différentes écoles. Nous en avons aujourd'hui une vingtaine et nous avons déjà une trentaine de dossiers pour la rentrée prochaine.
On peut dire un petit mot de rappel sur Sainte-Jeanne de Valois. J'ai reçu Dominique Thys ici et à plusieurs reprises. Ça progresse parce qu'au départ, c'est un foyer, on peut dire, à la Martinerie, pour des structures humaines, familiales. Il n'y a pas 300 personnes, on doit pouvoir reconstituer une famille. Et ces infirmes sont là, encadrés, entourés de façon très, très affectueuse, très efficace aussi, parce que ce sont des professionnels qui sont là. Mais maintenant, ça se développe parce que il y en a une autre dans le Nord, Bretagne, enfin, c'est formidable. D'ailleurs, c'est un petit peu le projet, ils auraient voulu. Comme vous avez vos cercles dans toutes les régions de France et de Navarre, c'est la même chose pour eux aussi, ils essayent. Et ça aussi, c'est encourageant de voir que ça se développe.
Oui, je le disais, le mouvement catholique des familles était au départ un peu de l'œuvre de Sainte-Jeanne de Valois, hein, même si c'est une association complètement autonome. Hein, mais c'est un peu la même chose, hein, c'est pas quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose qui répond aux besoins des familles, qui répond aux attentes de la Providence, et donc naturellement, à partir du moment où on s'organise de manière professionnelle pour répondre aux exigences de la société d'aujourd'hui, et ben ça se développe naturellement, et ça fait vraiment plaisir à voir, hein. C'est vraiment un développement qui fait chaud au cœur.
Bon, voilà. Au moins, sur Radio Courtoisie, on a de bonnes nouvelles. C'est intéressant de savoir qu'il y a des associations qui fonctionnent, qui se développent, qui croissent et se multiplient. Mais alors, vous dites à chaque fois, ce sont nos familles qui, au fond, nous font part de leurs besoins. On essaye, autant qu'on peut, d'apporter une réponse. Alors, d'où vous est venue l'idée de la malle au mille trésors? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là?
Alors, j'étais en train de réfléchir quand je vous écoutais, monsieur l'abbé, et je sais pas, 18 ans peut-être, la malle au mille trésors, je sais plus trop, hein, l'âge exact de la malle au mille trésors. Et même chose, il manquait d'une revue pour les enfants, hein, et on a une revue qui s'appelle remarquable, qui s'appelle la malle au mille trésors, hein, qui a été initialement développée et mise en place avec comme rédacteur en chef le Julian Smith. Hein, et aujourd'hui, on a Marie Kervizik, hein, qui s'en occupe brillamment, hein, et qui paraît tous les deux mois, hein, donc 6 numéros par an, par abonnement uniquement. Hein, et c'est vraiment de l'or, hein, c'est vraiment quelque chose de remarquable. J'en ai que des retours positifs. Hein, et je ne peux qu'engager les grands-parents qui nous écouteraient à la radio. Je m'adresse aux grands-parents parce que c'est souvent eux qui ont le plus de moyens pour réussir à
et faire. Et puis ils cherchent un petit cadeau à faire pour l'anniversaire.
Pour la communion, pour l'anniversaire, pour Noël, à abonner vos petits-enfants à la Malle 1000 Trésors. Vous verrez, vous aurez que des retours favorables.
Et là aussi, sur le site de Mouvement catholique des familles, il y a un onglet Malle aux mille trésors et on peut ça. Alors, je crois aussi que c'est important, on disait enfin de bonnes nouvelles, on ne détruit bien que ce que l'on remplace. Il ne sert à rien de dire mais les jeunes sont tout le temps sur leur téléphone. Non, il n'y a qu'à leur donner quelque chose de beaucoup plus profond, riche, constructif. Et il faut avouer que c'est très très bien fait parce qu'on les occupe. Il y a la cuisine, il y a du bricolage, il y a des vitres-seins. C'est très complet. Enfin, c'est pas quelque chose de spécialisé dans un seul domaine. L'histoire sainte, non. Il y a tout. Il y a des contes. Enfin,
c'est vraiment une belle revue. Et à chaque fois, j'ai eu l'occasion de le présenter à des professionnels de l'édition pour enfants. Ils ont été un peu subjugués par la qualité du produit qu'on arrive à faire.
Donc, on va parler maintenant d'une revue à laquelle on ne peut pas s'abonner parce que au fond il faut être membre pour la recevoir. C'est le bulletin, c'est un bulletin somptueux, je dois reconnaître.
Oui, la revue du Mouvement catholique des familles, qui s'appelle Famille d'abord, est une très très belle revue. Ça a pris doucement de l'ampleur. Ça fait longtemps que c'est une belle revue qui est destinée aux abonnés. C'était la lettre du mouvement au départ. C'est devenu la revue du mouvement puisque c'est 40-44 pages et chaque année, tous les 4 fois par an. Donc ça non seulement fait un petit point d'actualité religieuse, sociale, sociétale, mais également le point de la vie du mouvement et surtout à chaque fois un dossier de fond, mais un dossier, je dirais, de vulgarisation, c'est-à-dire ouvert à tout le monde, à tous les niveaux. Et c'est sur non pas sur abonnement, contrairement à la Malle 1000 Trésors,
là, c'est sur
mais
adhésion.
C'est sur adhésion.
C'est ça.
Adhésion.
Alors là, c'est très bien, on va parler chiffres maintenant. Si on veut devenir membre, la cotisation est de combien ?
Alors la cotisation est actuellement de 30 euros.
Voilà.
Donc c'est vraiment pas cher. Les 4 revues pour 30 euros, c'est déjà pas grand-chose.
Exactement.
Mais en plus, cette cotisation, elle nous permet d'organiser nos différentes activités, puisque on a quand même pas ça. Je peux penser par exemple aux sessions de fiancés, aux prix qu'on fait aux familles pour le congrès, qui défie toute concurrence. Et c'est grâce en fait à l'adhésion au mouvement qu'on arrive à le financer.
Alors là, vous parlez de la session des fiancés. Ça fait partie tout à fait de la démarche du MCF. On vient vous chercher.
Voilà,
c'est pas vous qui vous êtes levé un matin en disant tiens on va faire une session pour des fiancés.
Non, les familles,
vous
vraiment...
voulez pas caser des filles à vous, non
voilà.
C'était
non,
pas
moi,
ça.
Moi elles sont toutes casées,
voilà.
Assez peu de fiancés d'ailleurs. J'en ai davantage au couvent.
Donc vous n'étiez pas en peine de trouver un gendre, d'accord.
Mais non, on est venu chercher le mouvement, les familles qui s'inquiétaient. De la formation des fiancés, c'est assez nouveau, cette soif qu'ont les fiancés de se former. On n'avait pas ça, nous, à notre époque, je ne sais pas si on en avait besoin. Aujourd'hui, il semblerait, vu le succès que ça a, qu'on a besoin. Alors, on a vraiment, dans nos sessions de fiancés, il en existe plusieurs, des sessions de fiancés, je pense aux sessions organisées à Mérigny, aux sessions organisées au Moulin du Pin, à la Grasse et autres.
On est plus sur des retraites,
voilà.
Tandis que vous n'êtes pas une retraite.
Et là, on a pris le problème complètement différemment. On ne va pas faire du tout une préparation au mariage. On laisse ça aux prêtres, la préparation au sacrement de mariage. Nous, on va préparer, j'irais sur le plan naturel, sur le plan de la société. On considère que la famille, c'est d'abord une cellule sociale, sociétale. D'ailleurs, ça précédait le sacrement de mariage, depuis la Genèse. Et on va donc compléter la préparation au mariage par une formation faite essentiellement par des couples laïcs, mais en lien avec des prêtres de la Fraternité Saint-Pédis.
Oui. Et là, les problèmes évoqués sont très très concrets. C'est vous vous mariez, votre mari a une profession libérale, quel type de contrat il vaut mieux avoir ?
Voilà, il y a une partie concrète, il y a le déroulement du mariage, le suivi du mariage. Il y a une partie un peu plus de formation, l'apprentissage de la vie à deux. Hein. Psychologiquement, c'est pas toujours facile. Il y a une partie engagement dans la cité. Il y a, voilà, et on répond à travers les échanges qu'on a, soit collectifs, soit avec les couples présents, un peu à toutes les questions qui peuvent se poser, y compris sur la morale conjugale, sur l'union conjugale, etc. À toutes les questions qui peuvent se poser. Et c'est vrai que nos jeunes ont très soif de ça, et la famille est tellement attaquée aujourd'hui qu'on peut les comprendre, qu'ils aient un peu peur de s'engager pour la vie avec quelqu'un d'autre. Et ça les conforte.
Et là, aussi, il faut dire, peut-être parce que justement, ce ne sont pas des initiatives personnelles, mais c'est vraiment pour répondre aux besoins des membres du MCF. C'est un succès plein, puisque vous refusez du monde. Enfin, les sessions sont pleines à chaque fois.
On a commencé avec une session. Très, très rapidement, on est passé à deux sessions. On a augmenté le nombre de fiancés. On est à plus de 130 fiancés qui participent maintenant chaque année. Et on s'interroge pour éventuellement, à l'avenir, faire une troisième session. Mais on verra. Chaque jour suffit sa peine. C'est quand même compliqué à monter.
Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient peut-être être un petit peu découragés parce que justement les nouvelles ne sont pas fameuses, parce que tout semble s'effilocher, vous qui êtes président d'un mouvement qui donne de bons résultats, vous pouvez leur dire quel mot d'encouragement que... En clair, en général, les gens pensent que tout est foutu. Qu'est-ce que vous en pensez ?
N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je dirais, bah tiens, puisque on est le 18 juin, je me permettrais de faire un petit appel à la radio. Hein,
pas tout à fait dans le même sens que l'autre.
Pas tout à fait, mais il y a des analogies quand même, parce que le même si le personnage est c'est un grand personnage, hein, mais controversé, hein, et à juste titre, on pourra en parler. Mais c'est le début d'une résistance. C'est le début de l'épopée de la France libre, qui est quand même une belle épopée, depuis le fin fond du Tchad jusqu'à la cathédrale de Strasbourg. Et la société, à l'époque, était un peu en déliquescence. On avait une pression idéologique, on avait des compromissions, des politiciens qui étaient... Et bien aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Et il faut résister de la même façon. Ben l'appel, c'est le même. C'est résister, que les familles catholiques résistent, hein, restent catholiques. Hein. C'est un peu le titre de l'ouvrage de Rob Dreher, hein, « Résister aux mensonges hein. ». Et puis, puisqu'on est le 18 juin, voilà, c'est l'appel que je fais, moi, tout simplement, et sans prétention, et sans...
Mais au fond, à vous entendre, vous aimeriez que peut-être dans cette génération se lève un Leclerc qui aille jusqu'à Strasbourg libérer la France ?
Oui, alors, il ne faut pas attendre Leclerc, à mon avis. Il faut que chacun, à son niveau, se réunisse avec d'autres familles, se forme et s'engage pour aider les autres.
Chacun à sa place, avec ses grâces d'État. Tellement. On n'attend pas d'un homme providentiel qu'il fasse le travail pour...
Et c'est tout à fait le charisme un peu hein, du mouvement catholique des familles, à la fois avec une dynamique générale, nationale, hein, une entraide au niveau national. On a parlé des bourses, on a parlé de l'entraide handicap, et à la fois une réunion locale hein, et des cercles, une centaine de cercles localement un peu partout en France, qui se réunissent, qui se regroupent, qui se forment et qui s'engagent pour le bien des autres, pour aider les autres, pour le bien de la cité. On n'a pas le droit de s'en désintéresser, il faut résister.
Un grand merci. Alors je redis tout simplement, chers amis, si vous voulez plus de renseignements et surtout si vous êtes intéressés par ce congrès qui aura lieu les 3, 4 et 5 juillet, où il ne reste que quelques places, il faut aller immédiatement sur le site du Mouvement catholique des familles, donc tapez sur un moteur de recherche, vous êtes tout de suite, vous avez l'inscription comme cela, et puis vous recevrez l'excellente revue du MCF Famille d'abord. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé, et à bientôt, tout
Merci
le monde.
Merci beaucoup. Alors, j'ai la joie de recevoir maintenant, je vous l'avais dit, chers amis de Radio Courtoisie, un de mes confrères, l'abbé Bertrand Labouche, qui a fait paraître un très bel ouvrage. Au titre paradoxal, il va nous expliquer ce titre, l'Évangile de Notre-Dame. Monsieur l'abbé, bonjour.
Bonjour, cher monsieur l'abbé.
Alors oui, c'est paradoxal parce que dans l'Évangile, la Sainte Vierge ne parle pas.
Elle parle très peu. Sept paroles.
Voilà, sept paroles et elle n'est pas... Elle n'est pas, comment dirais-je, l'auteur des évangiles.
Non.
Elle était très proche de saint Jean, il n'y a aucun doute, mais ça n'est pas le cinquième évangéliste, en clair. Non. Donc, si ça n'est pas le cinquième évangéliste, comment est-ce qu'on peut dire l'évangile de Notre-Dame ?
Alors, parce qu'elle est présente, malgré tout, constamment. On pourrait résumer sa vie par trois mots latins. Fiat, stabat, magnificat. Des mystères joyeux qui la concernent et concernent aussi son fils. Des mystères douloureux. Stabat, elle était bien debout au pied de la croix, extrêmement patiente, courageuse. Puis le magnificat, avec son grâce pour les dons reçus de Dieu. L'évangile, effectivement, c'est la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il a une mère. Et difficile de séparer la mère de son fils. Et on peut difficilement évoquer notre Seigneur Jésus-Christ en éclipsant la figure de Notre-Dame. Depuis le début, depuis l'annonciation, la naissance de son fils, elle est déjà là. Et la naissance, proprement dite, visitation, effectivement, l'Évangile parle assez peu de la vie cachée de la Sainte Famille, mais précisément, elle était là, présente à Nazareth avec son fils. Et puis, pendant sa vie publique, elle apparaît de temps en temps, comme à Capharnaüm, par exemple, ou à Nazareth, où il est très mal reçu. Nul n'est prophète dans son pays. Voilà. Elle est là. Et puis la passion, effectivement, où elle va s'unir comme personne aux douleurs rédemptrices de son fils. Et puis l'Assomption, qui n'est pas dans l'Évangile, mais explicitement, mais qui nous semble confirmer qu'elle retrouvera son fils, bien sûr, pour l'éternité, qui l'attend et qui la couronnera. Alors, l'Évangile de Notre-Dame, c'est plutôt une appellation qui désigne le rosaire. Voilà. Le rosaire, effectivement, nous fait contempler les mystères de la vie de Jésus et de Notre-Dame. Et ce petit ouvrage se consacre plus spécialement au mystère de Notre-Dame dans l'Évangile. Et ils sont pratiquement dans tous ceux du rosaire. Moins par l'agonie. Il semble que Notre-Dame n'était pas à Gethsémani avec les dormants. Mais elle sait ce qu'il éprouve. Elle s'unit à lui. Mais elle est dans, pratiquement dans tous les mystères joyeux, une grande partie des mystères douloureux et des mystères glorieux. Donc l'Évangile de Notre-Dame, c'est une expression de Pie XII pour désigner le rosaire.
Et c'est ce que vous indiquez d'ailleurs dans le sous-titre de l'ouvrage. Je rappelle donc aux auditeurs de Radio Courtoisie que j'ai le bonheur de recevoir l'abbé Bertrand Labouche qui vient de faire paraître l'Évangile de Notre-Dame aux éditions de Chiré. On peut se procurer ce bel ouvrage, très bien illustré, pour la modique somme de 24 euros, donc aux éditions de Chiré, et c'est un ouvrage qui fait plus de 250 pages. Alors, le sous-titre, c'est bien ça, « Les plus beaux textes sur les mystères du rosaire ».
Voilà. J'ai consulté environ une soixantaine d'ouvrages. D'abord, les pères de l'Église, qui sont les plus proches des apôtres, les héritiers directs des apôtres, Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin, etc. Et c'est vrai que Saint Jérôme, Saint Bernard, qui est le dernier père de l'Église, on y trouve des citations étonnantes. Il y a un certain Denis l'Aréopagite qui était apparu Notre-Dame, donc c'est dans les premiers temps de l'Église, et il a dit « Si je n'avais pas été chrétien et confirmé dans ma foi, j'aurais cru que c'était une déesse. Tant elle était belle et rayonnante. Ce n'est pas une déesse, on ne l'adore pas, Marie. » On la vénère plus que d'autres, d'un culte d'hyperdulie, plus que les saints. Mais on ne l'adore pas, elle n'est pas Dieu, elle est le chef-d'œuvre de Dieu, la plus belle créature. En fait, ce petit ouvrage aurait comme prétention de répondre à une triple et même question du livre du Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament, « Quae est ista ?» Qui est-elle? Qui est cette femme? Qui est cette femme plus belle que l'aurore, appuyée sur son époux, enivrée de délices et d'aromates, ce sont ses vertus, plus belle que le soleil, plus terrible qu'une armée rangée en bataille? Qui est-elle? L'Apocalypse répond, un grand signe, signum magnum, couronné d'étoiles. Revêtue du soleil, les pieds sur la lune. Sur la lune, elle est la plus belle des créatures. Puis elle n'est pas lunatique.
J'ai envie de vous poser une question très personnelle.
Oui, monsieur l'abbé.
Très personnelle. Est-ce que ce livre doit quelque chose à votre ministère au Portugal?
Certainement, certainement.
Vous avez été proche de Fatima. Vous avez
alors
été,
voilà, j'ai pu approfondir un petit peu les circonstances de ces apparitions. Rencontrer des membres, des familles. Mais c'est surtout ce mystère de Notre-Dame qui est aussi dévoilé à Fatima, n'est-ce pas? C'est plus belle que le soleil, note Sœur Lucie. Un visage grave, elle ne sourit pas à Fatima, un visage grave. Sa bonté pour les pauvres pécheurs, elle est l'hôpital des pécheurs, dit Saint Basile. Alors évidemment, on est amené par Fatima à se demander, mais qui est-elle? Pourquoi? J'ai lu une citation qui m'a un petit peu ébahi. Les séraphins, donc les anges les plus parfaits dans la hiérarchie angélique, espèce de flamme d'amour de Dieu, n'est-ce pas, pourraient apprendre du cœur de Marie comment aimer Dieu. Elle est supérieure aux anges. Et saint Thomas note, c'est la seule fois qu'un ange s'incline devant une créature humaine. L'homme est inférieur à l'ange. La nature humaine est inférieure à la nature angélique. Là, non. L'archange Gabriel la salue. Avec
respect. Je vous salue, Marie.
Je vous salue, Marie. Et saint Thomas dit, un petit peu de chance, peut-être. Voilà, je vous salue, pleine de grâce. Il ne convenait pas que l'ange s'inclinât devant l'homme jusqu'au jour où parut une créature humaine surpassant les anges par sa plénitude de grâce, par sa familiarité avec Dieu et par sa dignité, Marie, saint Thomas d'Aquin. C'est un des nombreux textes qui parsèment ce petit livre, une espèce de caténa, petite chaîne mariale, voilà. C'est absolument pas un livre que j'ai écrit, c'est une petite synthèse de très belles citations et qui peuvent nourrir, voyez, meubler, nourrir nos, alimenter notre récitation du chapelet. Je voudrais souhaiter dire un petit mot sur le chapelet. Je me suis aperçu que beaucoup de fidèles n'ont pas vraiment compris en quoi consiste la récitation du chapelet. Il ne faut pas se bloquer sur les mots du Notre Père. Je vous salue, Marie pleine. On ne tient pas longtemps. Non, il s'agit de tenir compagnie à Notre-Dame. C'est Père Calmel, je crois, qui dit ça. Tenir compagnie, lui offrir 15 minutes, 20 minutes. On a besoin de son aide, de ses lumières. Et là, en consultant, en lisant doucement quelques pages, eh bien, sur de ces citations sur Notre-Dame, voilà qui peut nous aider à tenir compagnie à Notre-Dame, qui va nous introduire dans le mystère considéré du chapelet et faire passer dans notre vie la vertu correspondante. C'est un peu frangelico, complètement anachronique. Oui. Il y a la crèche et puis il y a un dominicain. Qu'est-ce qu'il fait là? Ou bien au pied de la croix, Saint-Dominique. Désolé, Saint-Dominique, c'est pas tout à fait la même époque. Mais non, c'est très juste. Le chapelet, c'est ça. Se mettre en présence. Voilà, de mystères considérés, et laisser Notre-Dame, en lui tenant compagnie, faire passer dans notre vie les grâces de ce mystère, tout simplement. Et c'est plus facile comme ça.
Au fond, vous voulez dire que le rosaire transcende le temps et que voilà. On peut se retrouver quand on médite, puisque voilà. Vous avez trois parties, mystère joyeux, douloureux, glorieux. Si on médite le troisième mystère joyeux, on peut se retrouver à l'activité, à côté du ravi de la crèche, en train de tenir compagnie à Notre-Dame.
Ou des deux radiateurs, l'âne et le bœuf, Marie, Joseph. On regarde et je vous salue, Marie. Je vous salue.
On entre véritablement dans ce mystère.
Et là, le chapelet passe. Et puis, avec cette idée d'être en compagnie de Notre-Dame, elle nous voit, elle nous entend, il n'y a aucun doute. Vous connaissez sans doute l'anecdote de Saint-Bernard. Un jour, il salue physiquement une belle statue de la Vierge dans un cloître. en disant Ave Maria. Et tout d'un coup, il voit la statue s'animer, Ave Bernard. C'est la preuve, c'est intéressant, que Notre-Dame entend nos Ave, nos Je vous salue Marie. Voilà.
Et au fond, c'est ça, il s'agit d'établir une intimité, presque une familiarité.
Ou une simplicité.
Et ne pas se dire que ça reste voilà, une Sainte Vierge marmoréenne. Qui...
Non, c'est la maman. Elle est même plus mère encore que reine. Or, elle est reine des anges, reine du ciel, reine de France.
Alors, justement, vous le dites, c'est les plus beaux textes, et il y en a énormément.
Oui, il y en a.
Mais alors que ces textes-là, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un petit peu la méditation d'une vie. Ça s'écrit peut-être pas avec un nom de sacerdoce, un livre comme ça, il faut avoir un petit peu.
Je l'ai pas écrit, j'ai recopié ce qui m'a paru le plus accessible aussi. Pardon. Ce qui m'a semblé le plus apte à mieux faire connaître, donc aimer Marie.
Vous n'avez pas dit ça, c'est les textes qui me plaisent le plus.
Il y en a, si, mais si j'avais, de toute façon, je l'avais voulu faire un livre sur Notre-Dame le plus complet possible, c'est 40 tomes de 1000 pages, il faut bien choisir. Le sous-titre est un petit peu prétentieux, je préférais de très beaux textes sur les plus beaux, on peut trouver les plus beaux. Ou bien, oh, mais il y a mon père, cette réflexion, il manque tel texte, vous avez raison. Mais il y en a d'autres que vous ne connaissez pas. Et on ne peut pas tout dire.
Je vois, par exemple, certains codétrons, peut-être le père Calmel, mais il y a des dominicains qu'ils ne connaissent pas. Je ne suis pas certain que tout le monde lise Bossuet aujourd'hui. Et je ne suis pas certain. Voilà, il est cité. Et Garrigou-Lagrange, c'est très beau, mais c'est vrai que c'est plutôt les prêtres qui lisent. Et là, vous le mettez à la portée des fidèles.
En particulier, père Garrigou-Lagrange, des pages magnifiques sur la récitation du chapelet. Par des vols concentrés, comme ça, on s'élève des mystères joyeux qui nous permettent de supporter les douloureux et qui nous ouvriront le ciel. Il y a un mouvement ascendant, un peu comme une hirondelle, dit-il, qui se dirige vers le ciel. De très belles pages. Vous avez
On peut rassurer peut-être les auditeurs de Radio Courtoisie à propos de Garrigou-Lagrange, surtout lui, parce qu'il l'avoue à son maître spirituel, son père spirituel, il dit vous savez, jamais été très fort sur le chapelet. Pour un dominicain, c'est fâcheux. Alors, mais c'était au début, il était très féru de théologie, il était un petit peu peut-être desséché par ses études, mais à la fin de sa vie, il ne pouvait plus dire que cela.
Il y a un autre père dominicain, le père Hugon, qui a des pages magnifiques sur le rosaire et la sainteté.
Il y a peut-être le père Vessière aussi.
Père Vessière.
Une grande épreuve, une grande maladie cérébrale. Il ne peut plus, et à la fin, il ne dit que le rosaire.
Alors attention, il n'est pas nécessaire d'attendre
une méningite pour se mettre à dire
le chapelet, monsieur l'abbé. Mais c'est vrai, c'est cette disposition de simplicité. On a besoin d'une mère. Hein. Et Notre-Dame est notre mère. Elle ne désire que cela, nous introduire dans ces mystères de son fils, maternellement, mieux comprendre ce qui s'est passé à Bethléem ou à l'Annonciation. Et sans aucune espèce de tension, il faut que je tienne les 5 dizaines jusqu'au bout. Non, non, accompagner Notre-Dame, pas s'inquiéter.
C'est le chapelet sans larmes que vous proposez ici.
Je ne sais pas. Oh, il peut y avoir des larmes spirituelles dans les mystères douloureux, tout de même. Mais vous rendez compte, Saint Bernardin de Sienne affirme, j'aurais jamais osé affirmer ça, je manque de dévotion mariale, c'est clair. Si on avait réparti toutes les souffrances de Notre-Dame sur tous les hommes, ils seraient tous morts à l'instant. On n'a pas idée de ce qu'elle a pu endurer.
Le glaive qui transperce son cœur.
Oui, mais certes, la Pietà, quand on lui a remis son fils, mais... Imaginez quand elle l'a vu paraître, l'Ecce Homo, défiguré. C'est sa chair, son sang, Jésus-Christ. Il n'a pas de père humain. Jésus est de Marie. Aucune mère n'a autant aimé son fils que Marie et n'a autant aimé Dieu que Marie, car Jésus est Dieu aussi.
Et là, alors, est-ce voilà. que les mystères douloureux sont faits, si j'ose dire, de façon un peu audacieuse, pour consoler un peu Marie?
Voilà, on ne peut pas... Nous sommes la cause de ces douleurs, puisque notre Seigneur souffre à cause de nos péchés, et Notre-Dame souffre ce que souffre notre Seigneur. Nous sommes aussi la cause des douleurs de Notre-Dame, et on peut lui apporter cette présence, voilà, cette compassion, au moins en acceptant avec elle, si nous avons tel ou tel motif de nous plaindre, il fait trop chaud, ben c'est une petite souffrance, peu importe. C'est vrai que voir Marie, la contempler souffrante, il ne serait pas très bien élevé de se plaindre, voilà.
Alors, vous pensez que quand on récite le chapelet, on ne peut plus dire zut, on ne peut plus dire que voilà, fiat, c'est ça?
C'est ça l'idée, au moins stabat, au moins tenir. Je vous salue Marie, c'était ce petit salut intérieur, je vous salue Marie, avec beaucoup de respect, d'amour, de confiance, n'attends que cela. Et c'est vrai que ces textes peuvent aider un petit peu à découvrir davantage qui elle est. C'est un mystère, Marie.
Ouais.
Mais mère de Dieu, elle tient un enfant qui la maintient dans l'être. Problème. Ensuite, elle est totalement immaculée, vierge, toujours vierge, n'est-ce pas, avant, après l'enfantement. C'est un grand mystère, et en même temps, elle est la plus humaine des femmes. Elle est très, très proche de nous. Saint Alphonse de Liguori, qui est aussi un auteur de référence, notamment par son livre Les Gloires de Marie, raconte des histoires vraies concernant la dévotion mariale qui vous étonneront.
Et ça, on le trouve dans le livre.
Alors, j'en ai mis assez peu des petites histoires.
Il y aura un autre livre, alors.
Mais Saint Alphonse est cité, et vous avez les références de son livre à la fin.
C'est ça, il y a un index,
voilà.
Et on peut, grâce à l'index, si on veut, voilà, chercher tout ce que Bossuet a pu dire, alors, tout Bossuet, ce que là, et on a, oui.
Vous savez mieux que moi, vous savez que Bossuet, d'abord il dit très bien ce qu'il dit, et il a une immense dévotion mariale, hein, ouais, un respect pour...
Et là, oui, c'est très précieux parce qu'on a effectivement toutes les pages.
Donc, Éranger, Saint-Pédier, c'est très divers, hein, Jean Ravenne. J'aimerais bien trouver une de Bossuet, là, un petit peu Saint-Louis-Marie. Ludolf Le Chartreux, Louis Perrois, le Père Poupon, Saint-Ignace, qui parle de l'apparition de notre Seigneur à sa mère en premier. Saint-Albert le Grand aussi. Le monde entier est redevable à Dieu de sa passion et à Marie de sa compassion. Saint Albert le Grand. Voilà.
Le maître de Saint Thomas.
Le maître de Saint Thomas et une science. Ah voilà, Bossuet. Quand Marie et Joseph et Marie ont perdu leur enfant, ils vont passer 3 jours à le chercher, ils vont le retrouver. Et ils entendent cette phrase qui semble désavouer un peu leur angoisse. « Ne saviez-vous pas que je dois être occupé des affaires de mon père ?» Mon père, c'est pas Joseph. « Est-ce que Jésus désavoue Marie qui a appelé Joseph son père ? Ton père et moi étions inquiétés. » Non, sans doute. Mais il le rappelle, dit Bossuet, le doux souvenir de son vrai père qui est Dieu, dont la volonté, qui est l'affaire dont il leur veut parler, doit faire son occupation. Peu de mots, c'est magnifique.
Tout est dit, tout magnifique. Est dit, exactement. Alors, un petit mot, oui, parce que tous ces textes sont magnifiques, mais bon, vous avez, voilà, demandé à une illustratrice d'agrémenter votre volume, votre livre.
Chaque mystère est illustré.
Exactement. Et là, c'est très sobre, ce sont des fusages, je ne sais pas, c'est quelque chose de très... c'est très évocateur.
Spirituel.
Oui.
En même temps, c'est ça, c'est pas encombrant de détails inutiles, mais on lit bien la scène. Ça peut rappeler un petit peu Frangelico, là. Et j'ai eu plus d'un commentaire favorable, oui, sur ses dessins, c'est vrai.
On a par exemple la flagellation, on voit Marie au fond, évidemment. On voit le couronnement d'épines, et elle est là. Elle est là, évidemment,
elle est là, toujours,
au cœur de chacun des mystères. Là, c'est la, ensuite le portement de croix, évidemment, elle rencontre sa très sainte, il rencontre sa très sainte mère, on voit. Et puis le Stabat Mater dont vous parliez, elle est au pied de la croix avec cette Marie-Madeleine, avec
Saint-Jean. Il y a là un commentaire, il y a eu une petite recension, voilà, sur les dessins. C'est, je crois que c'est assez bien vu. Peut-être que Madame Malvezin nous entend.
Vous cherchez donc
Voilà, j'ai vu quelques petites recensions. Qui ont... Voilà, il est là.
Oui.
Ajoutons que les dessins de Madame Malvezin, par leur délicatesse et leur puissance de suggestion, ajoutent à la beauté spirituelle de cet ouvrage. Et c'est très bien vu, c'est ça. C'est... Elles aident à prier, à se représenter la scène évangélique en question. Je crois que c'est bien fait. Je lui ai demandé, et elle a accepté 15 dessins, hein, c'est pas rien. Et je crois qu'elle a fait une bonne
Elle a réussi, parce qu'effectivement, les dessins ne distraient pas, non. Au contraire, ils amènent bien
exactement
au cœur là, du mystère et de la prière.
On pourrait dire sa dizaine. Certes, pour avoir lu un texte ou deux, c'est pas la peine d'avoir le livre sur les genoux pendant le chapelet. Mais devant ces dessins, c'est vrai qu'ils aident à élever notre âme, à la simplifier, à être plus à Marie qu'à soi-même. Mmh. Il y a encore ça à faire. Mmh. Allons. Voilà. C'est vrai. Je suis content que vous souligniez la qualité de ces dessins.
Donc je rappelle aux auditeurs d'Radio Courtoisie que nous recevons l'abbé Bertrand Labouche pour l'Évangile de Notre-Dame. Les plus beaux textes sur les mystères du rosaire, parus aux éditions de Chiré, donc illustrés par Catherine Malvezin, et aussi préfacés par l'abbé Christian Bouchacourt, qui a fait une très très belle préface.
Oui, qui commence très mal, parce que vous avez vu, ça m'a beaucoup amusé. Commence par dire que Sainte Thérèse de Lisieux n'arrivait pas à dire son chapelet. Alors, vous savez, c'est pas la peine d'insister. Et puis, non, au contraire. Alors, il y a un article qui va un peu loin, certainement, qui nous dit que si Sainte Thérèse avait lu ce livre, elle n'eût pas eu les mêmes tourments concernant la récitation de son rosaire. C'est vrai que ces citations sont profondes, claires, très, très dévote au sens aimante, hein, de Notre-Dame. Et elles aident beaucoup. Et des confrères, ils trouvent matière pour une conférence, un sermon, une des citations qui peuvent rester dans la mémoire de leurs fidèles. Bon, voilà, c'est sans prétention, évidemment, mais c'est une grande consolation de réunir tout. C'est ces pensées d'auteurs très divers. Hein. Nous avons bien sûr Saint-Marie de Montfort, mais pas que, dans Marmion, le père Thérien, un grand théologien.
Alors qu'il était connu surtout pour l'inhabitation du Saint-Esprit dans l'âme des...
C'est Froger.
Il n'y a pas un autre
La grâce et la gloire.
Oui.
La grâce et la gloire.
Il y a un dominicain et il y a un jésuite qui ont écrit, me semble-t-il, sur le même sujet.
Bon. Mais le Père Thérien a des pages étonnantes qu'on peut lire dès le début. Tu me permettais, monsieur l'abbé. Je me suis permis de le citer. Voilà. Surhumaine, sans cesser d'être humaine, vous offrez à tous vos enfants la tendresse dont ils ont besoin. Si déifiée que vous soyez, vous demeurez une femme aussi, une véritable et très douce maman. Père Thérien, grand théologien. En Marie, tout est mystère. Mystère, sa conception immaculée, sa virginité sans tache, l'abondance incommensurable de sa grâce, la suréminence de son titre de Mère de Dieu. Mystère est aussi l'immensité de sa douleur, un mystère tel qu'il échappe à toute conception, surpasse toute intelligence humaine, car toutes les souffrances du monde, unies ensemble, n'égaleraient pas cette douleur. Alors on se dit, mais la Sainte Vierge, attention, on la connaîtra jamais assez. C'est un grand, grand et doux mystère. C'est ce que on n'aime que ce qu'on connaît, et dans la mesure où l'on connaît. Je pense que ces réflexions, ces pensées, ces textes d'auteurs très recommandables et saints du Père de l'Église ne peuvent que nous aider à découvrir mieux encore qui est Marie. Et s'apercevoir, ben, on ne sait pas grand-chose finalement.
Vous parliez de confrères qui ont lu avec profit l'ouvrage, je n'en doute pas. Est-ce que vous avez eu aussi des retours de lecteurs, puisque l'ouvrage est paru il y a quelques mois.
Oui.
Est-ce que certains vous ont dit, j'ai exhumé mon chapelet grâce à vous, il était dans une tablette de ma table de nuit, et je l'ai, j'ai repris goût, bien j'ai compris que ce n'était pas à réciter avant de s'endormir, c'est-à-dire pour s'endormir. Est-ce que vous avez eu des...
Oui, une fois, bon, je parle j'ai pas l'habitude de parler de mes livres, mais bon. Mais on évoquait cela en retraite. Un retraitant m'a dit, c'est vrai qu'on lit doucement une citation ou deux de Mystère douloureux, elle reste. Et le chapelet et les facilités. C'est quand même pas n'importe... C'est douleur effroyable. Et elle s'est pas évanouie. Elle aurait, humainement, elle aurait dû s'évanouir. Mais il ne convenait pas, dit, je crois, le Père Suarez, que la mère de Dieu perdit l'usage de la raison. Donc elle est restée consciente, debout, stabat. Elle est stable. Mm-hmm. Et l'homme moderne n'est pas stable. C'est une girouette. Et la stabilité de la vérité, la stabilité de la messe. La religion catholique est une religion très, très stable, très conforme à l'être. Et Marie est très stable.
À vous entendre, j'ai l'impression qu'on ne sort pas indemne de la méditation du rosaire telle que vous nous l'a rappelé ici, oui. C'est-à-dire que peut-être sans qu'on s'en aperçoive, de façon subtile, maternelle, si j'ose dire, la Sainte Vierge transforme une âme et qui, elle, justement, était peut-être un petit peu trop concentrée sur son nombril et qui brusquement s'ouvre sur autre chose.
Absolument. On a besoin de sortir de nous-mêmes. En fait. On est encombré de nous-mêmes. Et il est certain qu'une mère, par définition, comment dirais-je, à cette autorité morale très particulière de faire grandir son enfant, de le consoler, allons. Ou de souffrir à cause de lui. Il s'en rend compte, j'étais trop loin.
Je fais de la peine.
Voilà. Et c'est vrai qu'il ne s'agit pas de sentimentalisme,
non.
Il s'agit d'une réalité. Nous avons contribué aux souffrances de Marie. Qui est Marie ? Un grand, grand mystère.
On revient au début de notre entretien. Absolument. On va rester sur cette parole et je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, l'abbé Bertrand Labouche, l'Évangile de Notre-Dame. Chers amis, nous nous retrouvons dans 15 jours.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Traditions, créé par Claude Giraud et dirigé par l'abbé Alain Laurence, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 18 juin 2026 de 14h à 15h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.